Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En Tunisie, la population, dans l'attente de la proclamation ce lundi des résultats officiels de la présidentielle de dimanche, qui devrait consacrer la victoire écrasante de l'universitaire Kais Saied. Des milliers de Tunisiens sont déjà descendus dans les rues dès hier soir pour fêter le triomphe électoral de M. Saied, donné gagnant par les sondages avec plus de 40 points d'avance sur son concurrent, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Kais Saied a toutes les chances de devenir le deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie. Jean-Roger Bion.
M. Saied a remporté plus de 70% des voix selon les sondages, 72,5% selon l'Institut Emerald, 76,9% selon l'Institut Sigma. Immédiatement après la publication de ces sondages en fin de soirée, des milliers de personnes se sont rassemblées sur l'avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis, klaxonnant, lançant des youyou et chantant l'hymne national. Kais Saied a remercié les jeunes qui ont, selon lui, ouvert une nouvelle page de l'histoire lors d'une brève apparition devant ses partisans et la presse dans un hôtel. « Je vais porter le message de la révolution de 2011 », a-t-il lancé. Son rival Nabil Karoui a déploré un déni de justice, estimant avoir été pénalisé par son incarcération durant 49 jours en pleine campagne électorale. Pour ce troisième scrutin en un mois, la participation a été nettement plus élevée qu'au premier tour, atteignant 57,8% avec seulement 70% des bureaux pris en compte. Pour le premier tour le 15 septembre, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda arrivait en tête des législatives du 6 octobre avec 52 sièges au Parlement sur 217 à appeler ses partisans à se rendre dans le centre de Tunis pour fêter la victoire de Kais Saied.
Processus de paix au Soudan, les négociations entre le gouvernement soudanais et les rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu doivent reprendre ce lundi à Djouba, la capitale du Sud-Soudan, en présence du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, tout juste couronné d'un prix Nobel de la paix, le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta sont attendus aussi à Djouba à cette occasion pour donner plus de poids aux pourparlers, selon la présidence sud-soudanaise. Rappelons qu'en novembre 2018, le président sud-soudanais Salva Kiir, qui venait quelques semaines auparavant de signer un nouvel accord de paix avec son rival Riek Machar, avait offert sa médiation dans les pourparlers entre Khartoum et son opposition armée. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Niger, 5 soldats ont été tués pendant le week-end dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. L'affrontement a eu lieu samedi dans le département d'Abala, région de Tillabéri, frontalière du Mali. Une patrouille du groupe d'action rapide et d'intervention de la gendarmerie nationale ligérienne a été ciblée par les agresseurs. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Aucune autorité n'a encore communiqué sur l'attaque. Selon des sources locales, les 5 gendarmes ont perdu la vie après que des hommes armés embusqués dans les champs des alentours du village de Abaré aient ouvert le feu sur eux. Un de leurs véhicules a été incendié et l'arme que portait un autre a été emportée par les assaillants qui sont repartis vers le nord côté frontière malienne sur une quarantaine de motos. Un militaire et un civil ont également été blessés. Situé à une soixantaine de kilomètres de la frontière malienne, Abala est un des départements de la région de Tillabéri mis sous état d'urgence par le gouvernement. Depuis quelques mois, sa partie nord est devenue une zone de forte activité de groupes djihadistes selon les experts. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali voisin, couvre-feu nocturne à Sévaré, localité proche du chef-lieu régional Mopti, dans le centre du pays, et ce jusqu'au 20 octobre. Cette décision a été prise après une manifestation qui a dégénéré samedi à Sévaré, où plusieurs protestataires ont saccagé et pillé l'entrepôt de la MINUSMA, la mission onusienne de paix au Mali. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Depuis quelques jours, des manifestations sont organisées à Mopti-Sévaré. La première était celle d'une organisation de la société civile appelée Plateforme Fassoko, elle a organisé une marche pour demander le départ des forces étrangères. Le vendredi dernier, les épouses des militaires ont également battu le pavé pour dire non à l'envoi de leur mari au front. C'est au deuxième jour de la manifestation des femmes militaires au niveau du camp de Sévaré, où elles protestaient contre l'envoi de leur époux, que des individus se sont dirigés vers les entrepôts de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali Minusma. Les manifestants ont vandalisé des magasins et conteneurs qui se trouvaient sur les lieux. Les jeunes filles et garçons ont emporté tout ce qu'ils pouvaient prendre. Dans un communiqué, la Minusma a indiqué que les manifestants s'en sont pris à plusieurs dizaines de conteneurs de stockage situés à l'extérieur du camp. Aussitôt informé après les événements, le gouverneur de la région de Mopti s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Dans un communiqué, il annonce l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin du samedi 12 octobre jusqu'au dimanche 20 octobre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ebola en République démocratique du Congo, l'utilisation du deuxième vaccin contre la maladie est projetée pour novembre dans 3 provinces de l'est du pays afin d'éradiquer l'épidémie qui a déjà fait plus de 2100 morts. Vers le 18 octobre, le vaccin arrive à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, et la vaccination va commencer au début de novembre, a déclaré à l'AFP le docteur Jean-Jacques Muyembe, qui dirige la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC. Le laboratoire belge en charge de l'opération va envoyer un lot de 200 000 doses au Rwanda voisin et 500 000 doses en RDC, a souligné le docteur Muyembe, qui s'est en plus félicité du fait que l'épidémie est désormais confinée dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Au Congo, Brazzaville voisin, une plateforme d'ONG locale a déposé au parquet de la capitale une plainte contre Denis Christel et Claudia Sassou-Nguesso, deux enfants du président du pays. Cette plateforme les soupçonne de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de corruption. Et son action en justice fait suite aux révélations faites il y a quelques mois par l'ONG britannique Global Witness de Brazzaville. Notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Ils étaient une dizaine d'activistes au secrétariat du procureur de la République pour déposer leur requête contre les deux enfants du chef de l'État pour des faits de détournement présumés de fonds. Vu les personnes visées, le parquet a longtemps hésité avant finalement d'enregistrer la plainte. Mais que cherchent à démontrer les ONG par cette démarche ? Trésor Dilakende, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
La loi congolaise dit que le procureur de la République reçoit des plaintes et des dénonciations et donne la suite légale à tout ça. Nous avons appris des faits extrêmement graves de détournement des fonds publics et dans un contexte social délétère. Il ne s'agit pas des premières révélations, il y en a eu plusieurs. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas garder silence. Il faut bien qu'on interpelle les pouvoirs publics afin de faire la lumière sur ces révélations qui sont extrêmement graves.
Contrairement à sa stratégie habituelle d'agir en présence du public, la plateforme d'ONG s'est plutôt discrètement glissée au parquet de Brazzaville. Les attentes sont fixées à la décision du procureur de la République s'il ouvrirait ou non une enquête judiciaire à ce sujet. Joe Washington Ebina, président du FULD, était de la partie.
Nous restons confiants sur le fait que ces accusations viennent d'une organisation très sérieuse, reconnue à travers le monde. Maintenant, au niveau du Congo, nous espérons simplement que le travail sera fait. Mais au moins, les populations sont bel et bien informées que les organisations sont dans la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité devrait mettre tout le monde en paix. Voilà simplement ce que nous recherchons.
La démarche des ONG locales est une première dans le pays, si bien que très peu de gens lui donnent une chance d'aboutir. L'analyse du juriste Christian Rudy Bouanga.
Voilà des citoyens congolais qui ont intérêt à agir du fait, n'est-ce pas, de l'objet de leur ONG, qui sont libres d'aller saisir le parquet de la République, se constituant partie civile pour avoir dénoncé certains faits. Ok, ils sont dans leurs droits. Maintenant, quelle suite leur sera réservée ? La composition de cette juridiction de jugement, n'est-ce pas, s'interrogera sur les éléments de preuve mis à leur disposition. Mais vous comprenez avec moi que ces éléments de preuve brillent par leur nullité. Ils sont vides de tout contenu. Toutes les déclarations faites par Global Witness sur les soupçons de corruption, de détournement ou de blanchiment d'argent portés contre certains citoyens congolais, régulièrement revient le mot « apparemment il y aurait eu, vraisemblablement il y aurait eu ».
En avril et août dernier, l'ONG britannique Global Witness avait publié des rapports incriminant la fille et le fils du chef de l'État d'avoir détourné et utilisé des fonds publics à des fins personnels. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.